et d'avoir les nouvelles du front, mais j'espère rester vivant d'ici à la fin de ce petit message, parce que je suis dans une voiture qui circule quelque part en Inde, à Ahmedabad, et c'est une rude épreuve pour les nerfs. Très très rude épreuve pour les nerfs. À chaque seconde, on se dit qu'on va se planter, qu'on va dégommer un camion, un chameau, un vélo, un scooter, une femme voilée, une vache. C'est quand même assez difficile. Là, il y a un feu rouge, et j'espère que notre chauffeur, mais oui, il s'arrête. Alors voilà, on est donc à Ahmedabad, au Gujarat, après 2-3 jours passés à Bombay. Bombay, charmante cité nichée dans son écrin de verdure, mais aussi terre de contraste, avec 22 millions d'habitants, banlieues comprises, dont 8 millions qui vivent dans des bidonvilles, qui fait de Bombay le plus grand bidonville de l'Asie. 8 millions, plus 1 million de personnes, de femmes, d'hommes et d'enfants qui vivent sur les trottoirs. Alors, ça fera évidemment grosse impression à ceux qui vont venir participer au Forum social mondial qui va se tenir du 16 au 21 janvier. Grosse impression sur les visiteurs. Il y a 100 000 visiteurs qui sont prévus, bon, les visiteurs occidentaux. Les autres qui viendront des pays du tiers-monde seront un peu moins surpris. Alors nous, ben on continue. Là, on est donc à Ahmedabad, dans le Gujarat. Pourquoi ? Parce que on aimerait comprendre justement les effets de cette mondialisation, de cette ouverture au marché sur la vie indienne, sur la société indienne. Et puis, on s'intéresse aussi à un phénomène qui préoccupe quand même beaucoup, beaucoup ici les observateurs indiens, c'est la montée du nationalisme en Inde, la montée du BJP, ce parti safran, basé sur l'hindouisme, qui est considéré un peu comme un détournement de l'hindouisme, et qui ici à Gujarat est largement impliqué dans des pogroms, dans des pressions, dont un pogrom il y a 2 ans, qui avait fait 2000 morts, 2000 personnes ont été massacrées. Alors certains disent génocide, le mot est sans doute un peu trop fort, mais enfin, quelque chose d'atroce qui s'est produit ici il y a 2 ans. Le communalisme, la question des Dalits, c'est-à-dire les intouchables que nous avons rencontrés aujourd'hui, voilà ce qui nous préoccupe ici à Ahmedabad. Pendant ce temps-là, là-bas si j'y suis, continue, et Noël approchant, on va retourner à Saint-Eustache. Ça tombe bien, c'est juste à côté de chez moi, dans les Halles, à Paris, visite dans cette grande église qui n'est pas seulement une église, qui est un très haut lieu de mythologie qui est puisqu'on est en Inde.
Ah, ce vitrail. C'est le souvenir de la charcuterie française.
Le Seigneur soit avec nous. Mis le fond de notre cœur. On embrasse le Seigneur notre Dieu.
Et nous voyons Saint-Antoine et un cochon. Au XIVe siècle, la congrégation des Jacobins avait le privilège d'élever des cochons aux dépens des poubelles de la ville. Nous en gardions un morceau honorable pour nous et le reste nous le distribuions aux pauvres. Et si vous étiez venu il y a 2 mois environ, vous auriez vu une immense table avec de vigoureux garçons qui veillaient sur des châteaux de rillettes, de pâtés, de jambon, et leur offrande fut promptement, veuillez le croire, honorée par le public. De l'autre côté, eh bien, nous avons Saint-André, patron des poissonniers, et je vous ai dit, je crois, l'autre jour, combien nos poissonnières étaient de vigoureuses personnes résolues à délivrer leur curé. Venez.
Thank you. Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, je suis à Saint-Eustache, à Paris.
Flight number 2, arriving from...
Ah, voici notre admirable Saint-Jean de la fin du 15e siècle. Il était le disciple bien-aimé. De temps en temps, quand j'ai des gens qui ont des ennuis, je leur demande de méditer avec moi le chapitre 16e de Saint-Jean. Et de l'autre côté, nous avons, hélas, un grand mur de couleur obscure, noir de nuit, car il y a 2 ans, il y avait là une crèche et un malheureux a été jeté, un flambeau, et la crèche a flambé, n'est-ce pas, dans cette œuvre d'art, que peut-être cette église, n'est-ce pas, le malheureux, je le plains. L'autre côté, une rosace qui ne vaut pas celle de Notre-Dame, bien sûr, n'est-ce pas, mais qui, au centre, exprime la Vierge qui offre l'enfant, et tout autour des anges musiciens, et puis en fait, tous les miracles du Christ. Je me rappelle, quand j'ai dit la femme qui offre l'enfant, une personne s'est approchée de moi. Mais moi, je fais Noël tous les jours, hein? Je suis sage-femme. Oh, je dis, madame, sage-femme, j'espère que toutes les femmes sont aussi sages que vous. J'espère qu'elles ont comme vous non seulement le savoir, mais la connaissance. Vous raconterai-je, mesdames et messieurs, n'est-ce pas tout simplement un détail? L'autre jour, j'étais chez un curé de campagne. La porte s'ouvre. Bonjour, Auguste. Bonjour, monsieur curé. Qu'est-ce que tu veux, Auguste? Mesdames, je voulais me marier. Avec qui tu veux te marier? Mesdames, vous savez ben quoi? Avec la petite Juliette Dupont, hein? Silence. Allez, un petit volage. Re-silence. À votre respect, je le sais mieux que vous. Eh bien, dame, pourquoi tu la veux? Ben, je la risquaille. Pourquoi? Parce qu'elle est ma connaissance. Je n'ai, en aucun livre, même de philosophie, trouvé l'expression d'une expérience, de la différence entre le savoir. Un dictionnaire, c'est un cercueil de mots. Et la connaissance, c'est-à-dire le livre, la conversation qui font naître entre vous, une étoile comme celle des mages. La connaissance, naître avec, c'est faire Noël.
Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton fils. Dirige notre joie vers la joie de sa présence, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui les aime avec toi et nos esprits, maintenant et pour les siècles et les siècles. Amen.
Idéal, Saint-Eustache, au nom de couteau, d'assassin, Eustache Apache, ou bien de couteau du bon pain partagé par la bonne mère, du temps où Paris avait un ventre, un bide, un estomac, de la tripe, au temps où Paris en avait un sexe, une matrice. Autant où Paris n'était pas cette nourrice de cire sèche à qui on a fait la totale. Cette Paris lisse, aseptisée, sans odeur épilée. Aujourd'hui, partie la mer. La mer s'est retirée, asséchée le quartier. Déserté le ventre, terrain vague, inconsolable. Paris dévitalisé. Paris tué. Tué à jamais, à jamais. La mer s'est retirée avec ses vagues et ses poissons dorés, ses monceaux de barbac, ses barricades de choux, ses odeurs, ses vagues d'odeurs et de puanteurs, en écume qui venait frapper les murs de Saint-Eustache et qui y entrait, odeur de bouffe, odeur d'amour, odeur de cul satisfait, odeur de sainteté. Et toutes les petites sueurs des pauvres. Ici, on se frottait, on se poilait, on braillait. Paris avait du génie. Les riches aussi venaient, s'encanailler la nuit. Comment a-t-on pu faire ça? Où sont les assassins de ce Paris? Qui a fait ça? Et pourquoi? Bientôt 25 ans, un quart de siècle, inconsolable. La mer s'est retirée et l'île est restée, l'île idéale, l'orpheline. Jadis, c'était autour le tumulte, la mêlée qui entourait et qui entrait là. Les odeurs de Saint-Eustache. C'était les fruits de mer, le sang des bêtes et le parfum des putains. Et la sueur des hommes. Les fruits, légumes, les maraîchers qui arrivaient, que des cris Colette, qui arrivaient par ce petit train d'Arpajon de Bobigny. C'était les étals de Bidoche, de Manet, de Zola, de Mangeaille, généreuses. Paris alors, donnait. Paris alors, sodomait. J'arriverai pas à être mesuré sur ce chapitre. Tant pis pour la nostalgie. C'est pas seulement des sans-logis, les mecs, qu'il faut loger. C'est pas seulement ce dégueulasse apartheid social qu'il faut abolir. C'est de la vie, et vite, qu'il faut faire revenir. De la vie, des gens, des cris, des castagnes, des poètes, des escrocs, des saints, des anges, et des cons formidables, comme vous et moi. Que le vin des rues revienne et gonfle à nouveau les bedaines, le ventre de Paris. Que reviennent les restifs, les Léo Malais, que Prévert chaque jour et sa ration de curé à bouffer. Et que ce vin des rues de Paris se partage à la messe de Saint-Eustache. Le vin de tous, le sang de tous, le sang de la mer autour de l'île. L'île des Halles, aujourd'hui, sur un terre, une balade à Saint-Eustache. Égoïstement que je réalise un vieux projet. Ça fait très longtemps que je vis dans ce quartier, que je connais ce quartier des Halles. J'ai toujours, depuis que je suis petit, rêvé un jour de grimper sur le navire, sur la baleine, sur ce splendide Titanic qu'est Saint-Eustache. Alors j'ai abusé de mon petit pouvoir, de mon petit micro, j'ai appelé Gérard Beneteau, qui est le curé de Saint-Eustache. Et, chance, j'ai rencontré un homme ouvert, cultivé, tolérant et patient avec un énergumène de mon espèce. Nous arpentons cette église par l'intérieur, du côté coulisses, envers du décor. Ici, on surplombe toute l'église. Ah, c'est prodigieux ici. On a une vue. Et pourquoi ce couloir, cette déambulation ici?
C'était pour l'entretien. Je crois que dans la plupart des églises, il y a ça. Il y avait l'entretien, monter les lustres.
Ah, oui.
Tout à l'heure, d'ailleurs, la pierre est abîmée par les cordes des lustres à l'autre bout, qu'on montait pour les allumer par là. Et puis ça donne sur les toitures, donc ça permet l'entretien.
Merde, dites-moi, je vois qu'on se balade dans l'église, parce qu'il y a des graffitis un petit peu partout sur
oui,
ces...
Il y a eu des gens qui sont montés, oui, mais maintenant c'est bien fermé.
Oui, c'est ça, c'est interdit, ne le faites pas, n'essayez pas de le faire.
Qui aujourd'hui pourrait écrire un... Mystère de Paris, un nouveau mystère de Paris, un nouveau mystère de Paris. Où sont les restifs et les Léo Malais que j'évoquais? Ce serait bien difficile, bien difficile. Paris n'a plus guère de mystère. Bien que, quoique ici, on se balade dans l'envers du décor, dans les cintres, dans les coulisses du théâtre, ces
sépulcrale du bon Dieu. Vous avez remarqué qu'on dit bon Dieu et beau diable. On dit pas bon diable à part bon petit diable. Non, c'était un clin d'œil. On ne dit pas beau Dieu. Alors qu'ici, tout se veut beauté. Beauté réalisée par des hommes pour rien, sans raison, sans rien de fonctionnel. Sinon, la fonction de la fiction, la sacrée fiction. Il faut imaginer, je sais pas, au 16e, 17e siècle, Paris qu'il y avait autour. Aujourd'hui, c'est simple, il n'y a plus rien. C'est aseptisé, un petit square malingre, une vague sculpture pour les photographies des touristes qui s'ennuient. Une fontaine, la seule fontaine de Paris qui fasse un bruit de moteur. Elle est en face de Saint-Eustache, elle pue le chlore à cause de la piscine. Voilà le décor pauvre que nous avons autour de nous. Catastrophe. Mais il faut essayer de tenir, et c'est peut-être à l'intérieur qu'on retrouve les grandeurs de cette coûteuse gratuité écrasante, exaltante. Gare, garage, auberge espagnole, Saint-Eustache.
Alors on est dans l'axe, au-dessus du cœur, avec au fond les orgues, splendeur hein, quand même. Tout en haut, on a combien là, 25 mètres
non 35.
35 mètres.
35 mètres, oui. Avec les clés de voûte gigantesques, celle-ci fait près de 2 mètres à peu près. Clé de voûte Renaissance taillée dans la pierre.
Avec tous ces petits personnages, figures, qu'on soupçonne même pas du bas, hein, on va avoir un très bon Dieu. On est un peu dans le secret des dieux.
Voilà.
Enfin, pas des dieux, puisque vous n'en avez plus qu'un. C'est quelque chose de l'orgue en face, hein. Impressionnant.
Il fait 16 ou 18 mètres de haut.
Dessiné par Baltar, c'est
oui.
Ça
oui.
Mais ce qui est curieux, c'est que votre hôtel, il est... Je comprends pas pourquoi il est aussi avancé que ça. On a l'impression que petit à petit, vous avancez vers les fidèles.
Oui, parce qu'autrefois, il y avait l'ancien maître-autel, comme la plupart des églises, où la messe, je dirais, était au fond très, très mystérieuse et dite de loin et en tournant le dos aux fidèles. Et puis, depuis le Concile de Vatican II, on a, je dirais, voulu une liturgie qui soit plus proche. Alors, on a mis des autels d'une part tournée vers le peuple, plus proche d'eux. Et puis, on n'utilise plus non plus la chair. On parle du pupitre au-devant.
Ah. On n'utilise plus du tout les chairs ?
Non. C'est un art oratoire qui est en partie passé. C'était aussi cette vision de l'Église, je dirais, de parler de haut. Ça fait quand on...
La parole qui tombe.
La parole qui tombe, et puis on annonçait aux gens leur condamnation du haut de la chair. Oui, ça tombait du haut de la chair.
Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a une recrudescence de la pratique religieuse, enfin de la pratique religieuse catholique.
Je ne sais pas si c'est seulement catholique d'ailleurs, mais catholique effectivement sûrement, sur Paris en particulier, c'est très très sensible. Je crois que quand il y a eu une baisse de la pratique religieuse dans les années 50-60, ça a commencé à Paris et ça finit en Vendée. Je suis vendéen alors.
Oula.
C'est de quoi je parle. Et là, je ne sais pas, peut-être que la remontée de la pratique religieuse commence à Paris, ça va peut-être se terminer en Vendée, je ne sais pas. Mais il est clair qu'on est dans un moment de remontée de pratique religieuse.
Si vous suggérez de Paris à la Vendée, vous suggérez qu'il serait plutôt une France, disons, crispée, qui reviendrait dans votre paroisse.
Disons que la pratique religieuse est quand même souvent liée en partie... pas seulement, heureusement, mais en partie à des situations de détresse. Alors c'est vrai qu'on a un peu toutes les conditions en ce moment, entre le chômage, la maladie, les difficultés du couple, je dirais, il y a toutes les conditions pour que des gens s'interrogent sur le sens ou se tournent vers des questions, puisqu'un certain nombre ne sont pas résolus. Il y a ça. Il y a aussi, bon, c'est un classique de dire, il y a la mort des grandes idéologies et la nôtre, qui j'espère n'en est pas vraiment une, mais qui résiste un peu mieux, quoi. Peut-être parce que justement, c'est pas une idéologie, mais autre chose, des gens en lien avec quelqu'un. Enfin, j'espère que c'est ça.
Mais quand même, l'Église a l'air d'être un peu orpheline de ses halles. Hein. Depuis 25 ans, 69, les halles sont parties. Et Lille, j'allais dire, ben c'est pas mal, je garde mon lapsus. était au milieu de cette marée de parfums, d'odeurs, de mélange, de bordel incroyable qu'était un bordel très organisé d'ailleurs. Hein. Ça fait un petit peu perdu.
Il y avait une espèce de lien du bâtiment avec les activités des Halles, qui était, je crois, très très importante. Ça faisait partie d'un ensemble. Il y avait des traditions, la messe des charcutiers en est un reste d'ailleurs. En plus, ça, le quartier a perdu totalement son unité. Moi, c'est surtout ça qui me frappe, quoi. Les Halles entouraient l'église, presque la protégeaient. Il y a eu du temps, je crois, les dames des Halles sont venues d'ailleurs empêcher une fois, je ne sais plus à quelle période d'ailleurs, qu'on vienne, peut-être sous la Révolution, qu'on vienne chercher.
La commune, c'est la commune de Paris.
Heureusement que vous êtes là pour me rappeler ça. C'est la commune, c'est ça. Tandis que maintenant, j'ai un peu l'impression que c'est plus le lieu qui serait un peu protecteur pour des gens paumés, quoi. Vous parliez d'un bordel bien organisé, maintenant on est dans une misère ou un bordel très désorganisé, quoi.
Parce que quand on passe à l'extérieur de Saint-Eustache, en bas, dans les murs à hauteur comme ça, vers 2 mètres, il y a des traces de clous. Et ça, c'était probablement les petites échoppes qui étaient accrochées, qui étaient comme des berniques, des petites verrues sur l'église, c'est ça, non? Il n'y a plus tout ça, hein, toute cette vie qui s'accrochait comme ça au navire.
Non, la nouvelle architecture des Halles l'a complètement coupée. Je dirais même le soir, elle constitue une espèce de zone d'ombre, parce qu'elle est fermée. Donc, elle n'attire plus personne. Le jardin, pour diverses raisons, n'attire pas grand monde non plus. Et entre d'un côté le pied de cochon, tout ça, et les restaurants autour qui ont leur clientèle, et puis de l'autre, tous les cafés en allant vers la place des Innocents et Beaubourg, je dirais, ça constitue une espèce d'îlot sombre et un peu triste, en fait, malgré l'éclairage de l'église.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est très éclairé, mais en même temps, c'est un îlot sombre, parce qu'il n'y a pas tellement de vie.
Il n'y a pas de vie autour, non. Non, non.
Retirer, replier la vie autour, adieu les Halles, adieu à jamais. Je me souviens d'un moment que j'ai passé dans cette église, il y a pas mal d'années, avec un certain Doineau, Robert. On se m'était promis de faire quelque chose, une émission en enregistrement avec Robert Doineau, et j'avais pas tellement d'idées. J'avais juste eu l'idée de l'emmener se balader dans les Halles, ce qui n'était pas une formidable idée. Mais Robert est venu quand même, très gentiment, très courtois, comme à son, et très malicieux, et très génial évidemment, enfin. Et on savait pas trop où aller, on savait pas trop quoi dire, on savait pas trop quoi faire. Ça l'emmerdait assez de refaire ces vieux numéros de nostalgie collante, etc. Mais enfin, courtois, gentil. Si on parlait de... Il était triste au fond. Quoi dire d'autre que des choses tristes sur ce quartier? Alors, il s'est mis à flotter. Il s'est mis à flotter comme vache qui pisse. Et on est entré dans Saint-Eustache pour s'abriter. Et Doineau s'est mis à parler des odeurs des Halles, et ces odeurs de bouffe que j'évoquais, et ces odeurs de poisson, et ces odeurs de femmes, et ces odeurs de... qui entraient et qui pénétraient dans cette église. Il a uniquement parlé de ces odeurs qui aujourd'hui, il faut bien dire, ont disparu. Alors, promenade, on continue.
Que nous connaissons déjà, hein.
Eh bien oui, on s'est vu hier.
Attendez. Eh bien, voyez-vous, monsieur, qu'est-ce que vous désirez savoir?
Ah!
L'histoire vous intéresse, ou bien l'architecture, ou bien les petites histoires, ou bien quoi? Un peu de tout.
Un petit peu de tout. Les petites histoires.
Bon. Alors, voyons. Pour commencer, cette église a été construite de 1532 à 1740, plus de 100 ans. Au temps de François Ier, qui revenait de construire son château de Chambord. Bon. Cette église a été construite par des compagnons, ouvriers spécialisés, les architectes m'ont dit que ce fut un travail énorme. Mais ils avaient la foi, en même temps de la compétence. Et leur foi elle-même, mais pas comme elle est capable de soulever des montagnes, elle est capable de dresser les colonnes de cette église qui font jusqu'aux clés de voûte 33 mètres et beaucoup plus haut jusqu'à 50. Et maintenant nous passons vers la chapelle, oh, nous passons en face de la statue de Jeanne d'Arc. J'avoue que je préfère de beaucoup celle qui se trouve en face des Tuileries, n'est-ce pas, à cheval. N'est-ce pas? Oh, elle me rappelle les vers de Peggy. Vienne en selle, en avant de sa cavalerie. Masquant ses bombardiers, sa bombarderie. Traînant comme un réseau sa lourde infanterie. Ameutant ses brigands qui couraient à confesse. Déférant aux trois voix qui scellaient leurs promesses. Grave et les yeux plus clairs que d'une chanoinesse. La sainte la plus grande après sainte Marie. C'est Peggy. Continuons notre périple. En face de la chapelle dite de la musique, où une peinture qui rappelle celle de Sainte-Cécile, n'est pas, nous laisse entrevoir une plaque qui nous arrive de Salzbourg, car la mère de Mozart, ici, a eu son office funèbre. Trois voyages au Mozart. Premier voyage, une dizaine d'années. Les bras étendus, les mains, et c'est pour ça de capter les notes justes. Il faut chercher des notes qui s'aiment. Il est cherché les notes qui s'aiment, qui c'est celui d'entre nous qui ne cherche pas les notes qui s'aiment. Autre voyage, vers l'âge de 12 ans, m'a-t-on dit, la reine Marie-Antoinette lui aurait dit, mon enfant, joue-moi quelque chose. Zetezuré, ce que tu voudras, et dit d'abord que tu m'aimes, aussi polissant que religieux. Il disait son, se rappelait tous les jours. Mais à part ça, n'est pas, des mœurs très libres. N'est pas de l'autre côté, Rameau. Et je vous prie, mesdames et messieurs, de mettre votre main en visière comme le mien, n'est-ce pas, car ce sera la seule manière de voir légèrement éclairé le caractère difficile, j'ose dire le caractère de chat qu'il avait. Continuons notre périple.
Ces arches. Nous voilà dans l'architecture, là, on est dans le décor, on est dans le paysage, là, cette fois-ci. Quoi, c'est une réserve, ça pue la fiente de pigeon.
Il y en a un kilo là-dedans.
Et là, on a une vue sur tous les toits de Paris. C'est magnifique, le zinc des toitures. Il y a des travaux. Ah, vous avez une vue imprenable sur le Sacré-Cœur, là-bas.
Ce serait fou, mais très difficile, soudain, de regarder Saint-Eustache avec l'œil qu'on a pour, je sais pas, le temple d'Angkor, ou pour Kadjuraho, ou encore, ou même pour un lieu de culte vaudou, pour un moment de candomblé à Salvador de Bahia. Ce serait pas mal de voir tout d'un coup un lieu comme celui-là, avec, comme on regarde les indigènes, regarder ces autochtones réunis au pied de ces grands troncs de pierre, ces très hauts banians au cœur de cette clairière, avec autour la forêt, le forum, les menaces, les esprits mauvais, la zone, la dope, les serpents minutes, les soucis, les mauvais génies. Ici, la ferveur et le recueillement, comme depuis la nuit des temps. On va dans un instant sacrifier un homme pour les dieux, pour un dieu, pour obtenir des protections, des lumières, des explications, des apaisements. C'est un marché. Nous savons bien que ce que nous demandons est beaucoup, puisque jusque-là, nous n'avons pas eu de réponse. Nous avons compris qu'il faut donner beaucoup. Alors, en échange, eh bien, nous allons donner... je vais donner ma fille, je vais l'égorger. Ou bien mes moutons, ou bien mes bœufs, je vais donner mon plus beau taureau. Taureau. Ou encore mon fils, mon propre fils. Je vais l'égorger pour vous, par amour et pour vos lumières. Pas mal de regarder nos vieilles, si vieilles églises, si grandes églises, si mortuaires, si sépulcrales, avec les yeux d'un anthropologue aztèque. Observer ces indigènes que nous sommes le dimanche, si tristes, si accablés par on ne sait quelle faute, ces autochtones qui parlent bas, bredouillent, curieusement, rigides, économes de leurs gestes, et qui disent « c'est un jour de joie, c'est un grand jour de joie », et qui ne se marrent pas du tout.
Ah, mais sous les combles.
Mais sous la charpente, ce ne semble pas-t-il une des très très belles charpentes à Paris?
Magnifique, c'est un navire à l'envers.
Voilà, ça a été fait par le charpentier de navire, mais...
Ouais. Alors actuellement, tout ça est en restauration.
Oui.
C'est énorme, c'est énorme. Entièrement en bois. On monte un petit escalier de bois, tout est en bois, dans une forêt de poutres, de charpentes. La charpente juste au-dessus du transept, la charpente dessine une étoile. Très étroit. Ah, c'est là que les gars sont en train de travailler, donc sur la... Sur le... C'est quoi? C'est quoi? C'est le clocher, c'est...
Non, c'est la croisée... C'est une lanterne, la croisée du transept, et qui vient d'être faite comme, semblait-il, elle était à l'origine. Encore qu'il y ait des discussions là-dessus. Il semblerait qu'elle avait été rasée lors de l'installation du télégraphe à Paris. Et Saint-Eustache a été l'un des lieux qui a été aménagé pour servir pour les signaux du télégraphe.
Ah, ce sont des compagnons, évidemment, qui travaillent là.
Ça va modifier assez fortement là, la physionomie de Saint-Eustache. Parce qu'on est habitué comme ça à des découpes, et là, apparemment, et ça la surélève aussi.
Ah oui, il va y avoir un avant et un après, quoi. Oui, ça, dans la silhouette. Hein,
oui,
la silhouette, et,
ça,
la,
ça va changer.
Et la représentation de la ville et du quartier.
C'est un endroit, j'aime bien.
Ah oui, c'est extraordinaire. Ah oui, et par une sorte de hublot tout au fond là-bas. On aperçoit, on pense à vraiment un navire. Hein.
Oui, complètement. Hein.
On pourrait mettre une rangée de galériens.
Oui.
Mais c'est quand même extraordinaire que ça arrive à dessiner une étoile au milieu de tout ça.
Mais je crois qu'il y avait une espèce de souci...
Symbolique.
Symbolique, oui. Complètement présent. Vous êtes content quand ils ont fini? Ça a duré 105 ans. Hein. 1535-1640. Oh. Donc personne n'a vu le début et la fin. C'est la première église construite avec échafaudage, je crois, l'église importante. Les autres étaient construites avec de la terre qu'on mettait autour. Et là, je crois que c'est la première qui est construite avec échafaudage. Et encore, la façade a été complètement refaite au XVIIIe siècle.
C'est pas une église qui est frappante par sa grandeur, je trouve. Parce que finalement, on y entre le plus souvent par les petites portes. Oui, on entre par la petite porte.
On entre pas.
On découvre petit à petit. C'est vrai.
Il faut être ici. Il faut être ici pour s'apercevoir de sa taille. Quand les personnes qui entrent par le transept lèvent les yeux, parce qu'il y a une, il y a une taille intérieure qu'on ne voit pas du tout de l'extérieur, qu'on ne soupçonne pas. Elle a l'air un peu trapue, massive, écrasée, alors qu'en tout contraire, elle est extrêmement élevée.
Vous dites toujours Gérard Benneteau, vous dites pas Père Benneteau, hein, c'est bien ça, quoi. Vous n'êtes pas un père, un conseiller, dans ce sens-là.
Je m'appelle Gérard Benneteau, oui. Mais j'ai cette relation que j'ai découverte en devenant curé, quelque chose de très sympathique. Enfin, elle est très affective aussi, donc elle ne me déplaît pas. Hein, mais je n'ai pas envie d'être une autorité. Peut-être aussi, ça tient à l'image de Dieu que j'ai, je veux dire. Moi, je suis très sensible au fait que Dieu en Jésus-Christ n'est pas venu porter des solutions, mais vivre nos problèmes. Donc, pareil, à l'égard des gens, j'ai pas de solution pour leurs problèmes, mais je peux être une écoute et ils savent qu'une partie de leurs problèmes, je les ai aussi. Pour moi, c'est important, oui, de ne pas rajouter déjà la majesté du lieu par la majesté de la fonction. Mmh. Hein, sinon, il y a tant de gens qui n'oseraient pas approcher.
Le contraire d'intimidant.
Je crois, oui. D'ailleurs, je dirais, on a plutôt essayé dans l'éclairage, dans la musique qu'on diffuse souvent ici, enfin, que le lieu ne soit pas intimidant. Mm-hmm. Au contraire, je crois qu'on est là pour ouvrir des portes et on est des intermédiaires. Dieu est déjà quelqu'un de très difficile à aborder, à chercher, difficile d'en parler aussi. Je crois qu'il ne faut pas compliquer les choses. Quoi.
Parlez-moi du sida. On sait très bien que vous avez des positions assez courageuses là-dessus.
Je n'ai pas de position là-dessus. La maladie existe malheureusement.
Mais par rapport à votre église, quoi, disons, pour être plus direct.
Je me démarque un petit peu en acceptant cette réalité, en l'abordant de face, pas en essayant de la fuir. C'est une réalité d'aujourd'hui, et c'est une chose dont on doit parler, c'est une chose qui doit être accueillie dans des églises. Moi, je dis souvent que si chacun, on devait payer exactement tous nos actes, on serait tous morts ou en prison. Moi aussi, sans doute, pour des raisons diverses. Donc, je veux dire, il y a cette idée comme ça qu'il y aurait des gens qui mériteraient le malheur plus que d'autres est une idée pour moi totalement absurde. Il y a des gens qui s'en tirent mieux que d'autres, plutôt.
Non, mais attendez, en clair. Approuvez-vous ou non la politique du Vatican, de la protection et de la lutte contre ce fléau? Vous avez le droit à pas répondre.
Mais non, je vais pas me défiler. Je suis bien persuadé que le préservatif est un moyen clair et net de se protéger du sida. Et je suis souvent regretté effectivement qu'on puisse être comme ça au point de départ contre. Il n'empêche, je crois qu'on avait, je dis pas ça pour rattraper le reste, je dis qu'on avait des choses à dire pour expliquer que le préservatif est peut-être moins simple que ce qu'on en fait aujourd'hui. Et peut-être d'ailleurs parce que on l'a posé comme interdit au départ, on ne peut pas en parler et je trouve ça dommage. Mais bon, on poursuit toujours avec cette histoire-là. C'est vrai que j'aimerais
bien...
Effectivement, on ne se préoccupe pas de cette histoire directement de plastique. On a d'autres choses à dire sur ce que c'est qu'aimer, sur ce que c'est que les risques d'aimer. Je crois qu'on avait autre chose à dire que ça. Bon, c'est mon sentiment. Voilà.
parle beaucoup du lieu là, évidemment, aujourd'hui, mais on ne parle pas tellement des gens, les gens qui sont là, les gens qui viennent. Il y a des visites, il y a de l'intimidation, il y a du mystère, il y a du silence, il y a de la mémoire, il y a... Tout le monde dit, les gens souffrants, bon, bien sûr, alors, les gars qui ont le sida, ou les gars qui viennent pour la soupe, mais il y a aussi des Pékins ordinaires.
On vient parce que c'est beau, je veux dire aussi, et ça c'est un appel pour tout le monde. Puis les gens viennent y prier, enfin... En permanence, je sais pas ce qui se dit, c'est comme ça. Ouais. On commande pas grand chose. Enfin, l'essentiel de ce qui s'y passe, je n'en sais rien.
Ah.
Ouais. C'est à longueur de temps, comme ça, il y a des gens qui sont dans une conversation extrêmement intime, dans ce lieu dont officiellement on a la responsabilité, mais qu'on ne maîtrise absolument pas, je dirais, heureusement.
Pas mal, oui.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est un, en dehors de nos grandes liturgies qui occupent le lieu quelques heures par semaine, les gens ont là une relation avec un Dieu qu'ils cherchent, avec un Dieu qu'ils croient avoir trouvé, avec eux-mêmes, dont on ne sait rien.
Et c'est pas forcément très catholique.
C'est pas forcément très catholique, non. Et
ça vous gêne pas?
Non, parce que j'irais. Est-ce que Dieu lui-même est très catholique? Enfin, je crois que l'Église catholique dont je suis, l'Église est le moyen de communication entre les hommes et Dieu. Quand on rencontrera Dieu, l'Église disparaîtra. Hein, et donc, mais elle ne s'est jamais substituée à la relation personnelle des gens. Et même quand on organise une liturgie, ce qui se passe dans la tête des gens pendant que nous, on dit des choses, etc., on ne maîtrise absolument pas. Est-ce que les gens comprennent le texte et ce qu'ils en ressortent, on ne maîtrise pas, et Dieu merci, quoi. C'est comme de dire.
C'est ça qui est quand même assez formidable, non? C'est que chacun fait ce qu'il veut.
En tout cas, personnellement, je n'ai pas l'illusion, effectivement, d'organiser comme ça les consciences, etc. Et ça, je trouve, c'est un grand lieu de liberté. Pour moi, c'est quelque chose de très, très important.
Là, je vous retiens, mais vous avez votre baptême entre ces gens, ces Sri Lankais...
Qui parlent qu'anglais. Et un peu de Sri Lankais, surtout du Sri Lankais.
Sri Lankais, un peu d'anglais. Et vous, et les idées que vous avez, la façon dont vous parlez, eux, il y a quand même une différence formidable. Mais c'est assez réjouissant.
Oui, c'est assez étonnant aussi, ouais. Je veux dire. C'est vrai qu'au niveau de l'universalité, enfin, c'est l'Église comme une grande internationale qui a réussi dans l'espace et dans le temps. Ça, on peut
l'international qui fera le monde divin ou qui fera...
dans le monde divin, il nous échappe, on le fait pas. Mais je constate qu'effectivement, depuis des siècles, les gens se rassemblent dans une grande diversité, enfin, de pensées, etc. Je crois que le point commun, quand même, c'est la recherche d'un sens ou quelque chose qui nous dépasse. C'est ça, je crois que peu de gens échappent à cette question. Et si tout le monde n'entre pas dans notre réponse, peu de gens échappent à cette question-là. Et après tout, ce lieu dont on parle est un lieu qui questionne aussi à travers le temps, à travers l'espace. Je crois que c'est un lieu qui pose question. Je préfère ça à un lieu qui donne des réponses. Voilà.
Une bougie d'allumer une bougie, quel sens ça?
Lumière. Lumière. Je dis c'est la lumière. La lumière, c'est joli la lumière. Et puis je sais pas, c'est peut-être ma croyance qui veut ça. Mmh. Vous avez pas un briquet?
Non.
Il faut que je l'allume quand même, c'est la pauvre.
C'est pour quelqu'un que vous l'allumez?
Oui, tout à fait, pour mes enfants, pour surtout pour le monde entier qui a la paix si elle nous écoute.
Oui, regardez, hein? Ça marche
très
bien.
Je vous remercie.
Et pourquoi devant la Vierge?
Je l'aime bien. Je l'aime bien, c'est la mère de Jésus. C'est sans plus, mais enfin, je demande des fois des choses.
Ah, par exemple?
Ben, la santé, la paix surtout, dans toute la terre.
Vous venez souvent?
Non, c'est la première fois que je viens ici.
Ah, ici?
Oui.
Et comment vous trouvez l'endroit, là?
Merveilleux, magnifique.
Vous êtes de Paris? Vous êtes,
oui, tout à fait, je suis de la nation. Mais quand j'ai un moment, vraiment un moment, puisque je suis commerçante, eh ben, j'aime bien faire les églises. Mmh. Voilà. De toute façon, je pense qu'il y a quelque chose.
Alors, mais c'est quoi?
Pour moi, c'est Dieu et tout ce qui est, tout ce qu'on m'a enseigné. Voilà.
Vous retrouvez votre enfance aussi?
Je retrouve mon enfance.
C'est le catéchisme, l'église,
tout à fait. J'avais
la communion.
Papa, oui, j'avais un papa qui était très croyant et qui nous a enseigné d'ailleurs la naissance du Christ, tout ça. C'est Noël, ça s'approche.
On reste un peu ce qu'on nous a appris.
Oui, hein, et puis Noël. Fait, ouais. Tout à fait. Ah, oui, tout à fait. C'est dommage que tout est détruit. Des fois, on vient là, surtout, c'est quand on a des fois un besoin. C'est marrant, c'est quand on a toujours un peu de problème qu'on vient s'adresser, c'est vrai? Puis bon, on s'adresse à la Vierge, on s'adresse à Dieu, à ses saints. On pense que, bon, quand il y a un petit peu quelque chose qui devient joli dans la vie, ça y est, on a dit, ben, c'est elle ou c'est lui.
Et alors, là, vous vous baladez un peu, vous priez et tout, et vous sortez, vous êtes mieux ou...
Ah, je suis bien, c'est vrai. Je suis bien, c'est vrai. Puis on est tranquille quand même, parce que bon, on pense au bien, mais on pense pas au mal quand on est là. C'est vrai. Si tout le monde faisait ça, ça serait super. D'ailleurs, c'est un lieu, bon, une église, c'est un lieu où on peut penser beaucoup, on peut aimer, on peut demander, on peut, enfin, je sais pas, il y a quelque chose au-dessus de nous, certainement, qui nous protège.
Et vous me dites que vous êtes commerçante,
oui.
Et quel rapport, il n'y a pas de rapport entre votre commerce et votre...
Et l'église?
Oui.
Eh bien, un peu, ça rejoint un petit peu, quoi.
C'est vrai? De quelle façon?
Parce que, bon, je suis quand même assez mystique, assez spirituelle.
Vous vendez quoi?
Eh bien, c'est une maison de radiesthésie. Voilà.
Ah oui, quand
voilà,
même,
tout à fait.
Hein?
Voilà,
c'est un peu des histoires d'ondes. De...
Voilà, tout à fait. Ça fait 43 ans et puis vous allez me faire tout dire. Hein. Je suis remerciée pour ce qui est arrivé cette semaine. Puis voilà.
Qu'est-ce qui est arrivé?
Ben, pas mal de guérisons, pas mal de choses et puis voilà.
Ah, c'est-à-dire que vous avez eu des bons résultats dans votre boulot de radiesthésiste?
Tout à fait. Il y a eu des guérisons et puis également... ce que les médecins ont confirmé au niveau de certaines analyses, il y a du mieux, la personne se sent bien, ben merci mon Dieu, quoi.
Ah, voilà. D'accord. Donc c'est un petit peu, vous allez un peu vers l'ésotérisme là, hein?
Tout à fait, mais enfin je remercie des fois, voilà, je suis là, j'aime bien être seule pour remercier.
Très bien, ben je vous laisse seul.
Voilà.
Bonne journée, bonne continuation.
Merci, au revoir.
Un rocher qu'on remarquerait même plus. Saint-Eustache fait partie du paysage comme un énorme rocher. Pas plus de sens qu'un rocher peut-être, mais autant. Un bloc de matière à réflexion. Surtout si on laisse tomber le regard vieille pierre, guide bleu, excursion. Il faut, pour ça, pour éviter ça, il faut regarder tout simplement les gens autour. Et le rapport de dimension entre l'homme et l'édifice, l'échelle humaine, si petit, le petit homme, dans cette écrasante inhumanité, écrasante ou exaltante, dominante, qui exige la soumission, ou au contraire, qui élève, qui transcende, c'est la question que le passé et la pensée
suggère quand on se balade ici. Et puis, il y a comme un petit remugle de tendresse pour ces curtons, ces trafiquants d'âmes. Après en avoir tant bouffé, après en avoir tant loué, on vient à eux avec un petit air penché, comme une grand-mère, comme on se pencherait sur une enfance. Tant de soumission, tant de subversion, aujourd'hui en voie de disparition. Désuet, obsolète, mais qui nous ramène à notre échelle humaine et à ces mystères démodés. Démodés, mais qui ont peut-être été refoulés, enfouis. Soyez pas inquiets, je ne deviens pas Claudel en vieillissant, mais je pense qu'il y a là, par là, comme un grenier de France, une vallée peut-être fertile encore, en tout cas un gisement et évidemment une mémoire. Parce que le lieu, parce que l'espace n'a pas changé malgré les coups de vent, les incendies, les avatars de l'histoire, on peut revenir là, mettre nos pas sur le pas, sur les pas de nos ancêtres. Ma grand-mère venait prier ici, à l'extérieur. Mon papa vendait, livrait des fromages. Et on peut se poser la question, les cathédrales comme celle-ci, comme Saint-Eustache, peuvent-elles encore révéler, réveiller des grandeurs en nous? Va savoir, Jeannot, va savoir.
Là-bas, si j'y suis, à Saint-Eustache, à Paris, un reportage de Daniel Mermet, à la technique aujourd'hui, Clotilde Thomas et Pascal Baldassari, le répondeur Christophe Imbert, l'assistant Coy Nguyen, et la réalisation, c'était signé Antoine Chao. Je vous rappelle le numéro de téléphone du répondeur de là-bas, si j'y suis, le 01 56 40 37 37, et puis si vous laissez des emails, c'est daniel.mermet@radiofrance.com.